Version originale, Aligre FM, culture, société, création. Version originale, Patrick, Léon, Émile.
La lutte pour les droits civiques. C'est ce que nous relate Philippe Brossa dans son livre « Street of Chicago », les rues de Chicago, l'histoire des musiques de la Windy City, publié aux éditions Le Mot et le Reste. Dans quelques minutes, nous serons au téléphone avec Philippe Brossa pour parler de Chicago et de ses musiques, dont voici d'ores et déjà deux exemples. Dans quelques instants, nous continuons à parler de Chicago et de sa création musicale.
All right. Okay, we're gone. Roll it. Yeah, bring me champagne when I'm thirsty. Bring me a ripple when I want to get high. Morning. cocaine.
Dripping and dropping. Rescue me. I want you to sing for me, girl. no girl, one word could take the place.
Sing it, girl. Say it, girl. Be it, girl.
Could know it, girl.
Say it, girl.
Could be it, girl.
Save me, girl.
You are my world.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Culture, société, création, en version originale, Patrick, Léon Émile.
La house music de Chicago avec Frankie Knuckles et Satoshi Tomy. Le titre du morceau Tears, juste avant, donc c'était donc Moody Waters, Champagne and Reefer, Moody Waters et Frankie Knuckles. À des périodes de l'histoire, à des périodes différentes de l'histoire, ont un lien avec la ville de Chicago. L'un bluesman de légende et l'autre Didier, l'un des fondateurs de la house music. C'est ce que nous rappelle Philippe Brossa dans son livre Streets of Chicago, les rues de Chicago, publié aux éditions Le Mot et le Reste. Bonsoir Philippe Brossa.
Oui, bonsoir, vous m'entendez bien ?
Je vous entends très bien, soyez le bienvenu à l'antenne d'Aligre FM.
Merci, merci de m'accueillir.
Dans Street of Chicago, Philippe Brossa, vous racontez l'histoire des différentes formes musicales, les différents genres musicaux qui ont fait battre le cœur de cette ville durant de longues décennies, du blues, du jazz, jusqu'à la house music, je le disais, pour résumer. Depuis un siècle et demi, donc environ, la ville de Chicago fascine et attire les observateurs des États-Unis d'Amérique. Elle incarne une modernité urbaine spectaculaire. Pendant des décennies, des centaines d'ouvriers d'Europe, mais aussi des Noirs du sud des États-Unis et hispaniques, sont venus travailler dans ces usines, ces aciéries, faisant de Chicago la capitale manufacturière de l'Amérique. Et les gratte-ciels de Chicago sont aussi imposants que ceux de New York. Philippe Brossa, c'est à travers sa musique que vous avez choisi de raconter l'histoire de Chicago. Votre livre est un cheminement, un trajet à travers différentes formes de musique qui sont nés à Chicago. Vous parcourez donc, vous repérez, vous relatez de nombreux lieux, clubs, maisons de disques, domiciles, cimetières même, qui font revivre et qui disent les musiques, les musiciens, les musiciennes sur de nombreuses années qui ont façonné, qui ont fait battre le cœur de cette ville. Alors, racontez-nous ce cheminement, racontez-nous un peu l'origine de ce projet. Qu'est-ce qui vous a porté à parler de Chicago, de ses musiques sous cette forme-là, Philippe Brossa?
En fait, c'est une sorte de guide du routard d'une ville qui s'appelle Chicago sur le thème de la musique. J'ai déjà écrit trois autres livres sur des villes, sur le même schéma que sur Chicago. Je l'ai fait sur New York, je l'ai fait sur Los Angeles et je l'ai fait sur Londres, sur les pas des Beatles. Ce qui m'intéresse, c'est de retrouver les lieux exacts où la musique a laissé une trace forte dans chacune des villes que je viens d'indiquer. Donc, Chicago, naturellement, est une ville excessivement importante dans l'histoire de la musique qu'on aime. Sauf que Los Angeles, Londres et New York étaient des villes très rock'n'roll, très rock, un peu jazz, naturellement, avec New York, mais il y a peu de villes comme Chicago qui ont accueilli autant de formes musicales différentes. Sans doute pour une raison simple, vous l'avez rappelé, au début du XXe siècle et tout au long de la première partie du XXe siècle, il y a eu ce qu'on a appelé la grande migration. Ça veut dire que tout un tas de personnes du sud des États-Unis, notamment de Louisiane, mais aussi du delta du Mississippi, chassés par la pauvreté, chassés aussi par le fait, par exemple, à Nouvelle-Orléans, que le maire avait fermé tous les bordels de la ville, ce qui fait que les jazzmen ne pouvaient plus jouer dans leur lieu de prédilection. Et il y a eu donc tous ces gens qui sont montés au nord des États-Unis en quête de travail, d'abord, en quête d'argent, ensuite, et aussi en quête de gloire pour certains des musiciens. Donc, ils ont pris le train à partir de la Nouvelle-Orléans ou à partir du delta du Mississippi, Memphis, etc. Et ils sont montés jusqu'à Chicago, jusqu'à Détroit. Et comme ça, ils ont trouvé effectivement la possibilité de pouvoir s'exprimer. Et d'un seul coup, la ville de Chicago a accueilli un nombre incroyable de talents musicaux dans le jazz, dans le blues, qui sont venus s'installer dans le sud du centre de Chicago, dans ce qu'on a appelé à l'époque le quartier qui existe toujours, qui s'appelle Bronzeville. Et là, il y a eu une concentration qu'on n'a jamais trouvée ailleurs au cours du XXe siècle, de talents musicaux divers, concentration de musiciens, concentration de clubs, concentration de studios d'enregistrement, de maisons de disques, de maisons de production. Et comme ça, il y en avait partout, qui ont accueilli les plus fantastiques talents de jazz et de blues du XXe siècle. C'est ainsi que, par exemple, Louis Armstrong, qui venait de la Nouvelle-Orléans, est arrivé le 22 juillet, en juillet 1922, est arrivé à la gare de Chicago, qui est une gare fameuse, puisque c'est elle qui vraiment accueillait tous ces migrants par milliers pendant toutes ces années-là. Et puis, il est allé directement dans le club de King Olivier, qui lui avait dit « Viens, et je te trouverai du job ». Et effectivement, non seulement il a trouvé du job, mais il a aussi trouvé la gloire à la Nouvelle-Orléans. On pourrait parler aussi de Muddy Waters dans le domaine du blues. Muddy Waters, qui lui est venu du delta du Mississippi, pareil, chassé par la pauvreté et également par la grande sécheresse et aussi par les inondations à la fois du Mississippi et à la fois la sécheresse de ces états du sud. Il s'est retrouvé à Chicago, il a commencé par faire des petits métiers, chauffeur, etc. Et puis un beau jour, il s'est retrouvé dans les bras de la famille Chess, les deux frères Chess, qui l'ont accueilli dans leur studio qu'il venait juste de construire, qui s'appelle les studios Chess. Et ainsi, il a commencé à enregistrer des disques et à devenir sans doute le musicien de blues le plus important de Chicago, et ce qu'on a appelé le Chicago Blues.
Philippe Brossa, retournons avec vous si dans quelques lieux, si vous voulez bien. Si on prend l'exemple en page 89 de votre livre, donc c'est sur la 43e angle de la 43e rue et Grand Boulevard, dans le South Loop, si je puis dire, donc le Pepper's Lounge. Et là, vous l'intitulez, donc ils ont tous joué ici. Donc de Muddy Waters à B.B. King, en passant par Jimmy Reed, Howlin' Wolf, Lightnin' Hopkins, Little Walter, Magic Slim. Donc dès lors, ils ont tous joué ici. Donc qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cet endroit-là? Est-ce que ce club est encore debout? Qu'est-ce qu'on peut y voir?
Alors, malheureusement, autant à Los Angeles, à New York, à Londres, on peut retrouver les lieux, autant à Chicago, il y en a beaucoup qui ont disparu.
Qui ont disparu.
Pour la plupart. Mm-hmm. Notamment le Pepper's Lounge dont vous parlez, il a naturellement disparu. Il ne payait pas de mine, c'était vraiment un bar un peu pourri. Et pourtant, ce qui se faisait de mieux à l'époque, comme vous l'avez rappelé, sont venus dans le bar de Johnny Pepper's Robinson, et qui avait ouvert son club à l'époque et qui est devenu véritablement une référence. Mm-hmm. Et donc, vous avez rappelé Muddy Waters, Maxi Slim, Malcolm Taylor, ils ont tous joué ici, mais il y avait plein de bars. Ils ont tous joué partout, dans tous les bars. Et les bars, il y en avait partout, les clubs, il y en avait partout. C'était une exubérance. Alors, pour répondre à votre question, il ne reste plus grand-chose. Il reste un club qui a été ouvert par Buddy Guy, qui est un bluesman de la deuxième génération, j'ai envie de dire. Il est arrivé à Chicago dans les années 50. Il a ouvert un club qui a un gros succès, qui s'appelle Legend, et qui marche très 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 bien, et qui fait du blues. Alors, Buddy Guy est l'un des derniers vétérans du blues encore en vie. Mm-hmm. Il est toujours là. Parfois, il passe une tête dans son club, mais ça fait quelque temps déjà qu'il ne joue plus sur la scène, qui accueille toutes les nouvelles générations de bluesmen, parce que le blues est une musique vivante. Et donc, il y a encore plein de musiciens qui sortent tous les jours à Chicago et qui jouent sur les scènes de Chicago. Mais malheureusement, les bars mythiques et les clubs mythiques de cette époque, notamment à Bronzeville, il n'y en a plus beaucoup. Par contre, la musique ne s'est pas arrêtée avec le jazz et avec le blues à Chicago, puisqu'il y a eu également une scène de la soul music excessivement tonique à Chicago. Il y a eu également une scène rock très tonique à Chicago. Rappelons quand même que Chuck Berry, qui est originaire de Saint-Louis, donc Saint-Louis, c'est pas très loin de Chicago, il s'est pointé un jour au studio Chess. Et il a dit à Leonard Chess, le patron du studio, il a dit, voilà, moi, je vous apporte une bande, voilà la bande que j'ai enregistrée tout seul dans mon coin à Saint-Louis. Et Chess a trouvé ça pas mal, il lui a dit, écoutez, travaillez un peu le truc, et revenez le voir. Et il a revenu le voir avec un disque qui s'appelle maintenant, qui est devenu dans un grand classique du rock'n'roll, qui s'appelle Maybelline, et qui a lancé la carrière de Chuck Berry. Et Chuck Berry a enregistré quasiment la totalité de tous ses singles mythiques dans l'histoire du rock and roll, du Bibi, de Roll of Beethoven, etc. Il les a enregistrés dans les studios de Chess, qui, eux, sont fermés depuis longtemps, mais le bâtiment existe toujours. Alors, pour répondre à votre question, les clubs ont fermé, les studios d'enregistrement ont fermé. Par contre, souvent, les bâtiments existent toujours, notamment celui de Chess, qui est absolument mythique, qui même a été classé comme monument historique, donc il n'y a aucune chance qu'il disparaisse de la scène. Donc, le rock, et puis la soul, avec un garçon qui s'appelle Curtis Mayfield, qui est né dans un coin excessivement pauvre de Chicago, parce que quand tous ces immigrés sont arrivés à Chicago, il a bien fallu les loger. Et là, la municipalité a créé des espèces de appelons ça quand même des immeubles qui ressemblent plus à des ghettos qu'à véritablement des immeubles. Et il y en a un qui s'appelait Cabrini Green, qui est un petit peu au nord du centre de Chicago, et qui là a vu grandir pas mal de personnalités de l'histoire de la musique qui est plus récente à Chicago, notamment Curtis Mayfield et puis son grand copain Jerry Butler. Et ensemble, ils ont créé un groupe extraordinaire qui s'appelle les Impressions. Et les deux avaient deux voix absolument magnifiques, Curtis Mayfield et Jerry Butler. Et malheureusement, ils n'ont jamais joué ensemble dans le groupe Impressions. Ça a commencé par Jerry Butler qui ensuite est parti. Et ensuite, ça a été Curtis Mayfield qui a pris la suite. Ils ont ensemble créé des musiques de soul absolument magnifiques. Les deux aujourd'hui sont morts. Curtis Mayfield, excusez-moi, est mort, mais Jerry Butler est toujours vivant. Mais Curtis Mayfield, malheureusement, est mort. Et donc, ça a été une soul très, très, très forte avec des gens comme les Staple Singers. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à vos auditeurs. Staple Singers, c'était une famille. Le père s'appelait Pop Staples. Et ensemble, ils ont créé un groupe qui a eu une succession de succès, d'abord à Memphis, chez Stax, et ensuite à Chicago, chez Curtom, qui était la maison de disques qui avait été créée par Curtis Mayfield. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule personne de la famille Staples qui est en vie, c'est Memphis Staples, qui a toujours un talent absolument énorme et une voix extraordinaire. Mais on pourrait parler également de gens comme les Ohio Players, on peut parler de Chaka Khan, si ça vous dit
oui, bien sûr,
quelque chose. Et puis, il faut quand même rappeler qu'il y a des gens comme Sam Cooke, aîné Sam Cooke, qui est mort à Los Angeles, assassiné dans un motel un peu minable. Il est né à Chicago.
À Chicago, on le découvre dans votre livre, en effet. Oui, tout à fait. Et notamment, il y a vous évoquez la maison de la famille des Jackson, notamment, à Chicago. Alors, je vous propose, Philippe Broussard, de rester avec nous à l'antenne. Comme nous parlons de musique, on va faire une pause musicale de quelques minutes avec Dinah Washington et on reprend notre entretien au sujet de votre livre « Street of Chicago », publié aux éditions Le Mot et le Reste. Restez avec nous. À tout de suite.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
I'm mad about the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the candor
Ever cloy. This odd diversity of misery and joy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy.
Mad about the boy, Dinah Washington, la très belle voix de Dinah Washington. Pour illustrer vos propos et votre livre, Philippe Brossa, publié aux éditions Le Mot et le Reste, Street of Chicago. Philippe Brossa, donc bien sûr, vous évoquez Dinah Washington dans votre livre. Alors, moi, il y a toujours une question qui m'intéresse toujours, c'est de savoir, bien sûr, il ne peut pas avoir de réponse précise et juste, pourquoi tel type de musique naisse dans un endroit précis et à un moment précis. Alors, bien sûr, la question est beaucoup trop large pour que vous puissiez répondre comme ça, mais est-ce que Chicago présente une singularité topographique ou pas ?
Bien, oui, enfin, c'est un petit peu ce que je rappelais tout à l'heure, c'est-à-dire la grande migration a fait accueillir Chicago les meilleurs talents de jazz qui venaient de Nouvelle-Orléans, ou les meilleurs talents de blues qui venaient du delta du Mississippi. Et donc, toute cette population de talents s'est retrouvée au même moment, dans la première partie du XXe siècle, au même endroit, à Chicago, et sans doute aussi d'autres, à Détroit et à New York. Mais il y a eu une concentration, ça peut répondre à votre question, et il y a eu une sorte de melting pot. Mais il y a une autre musique qui est née bien plus tard, qui est née dans les années 80-90, la house music que vous avez rappelé tout à l'heure, je ne pense pas qu'elle ait pu naître ailleurs qu'à Chicago, sans doute peut-être à Détroit, mais en tout cas à Chicago, parce que cette musique, c'est une espèce de mix entre différentes influences, à la fois le funk américain, à la fois la soul américaine, mais aussi la variété italienne, et aussi les musiques électroniques allemandes. C'est-à-dire que cette espèce de mix de toutes ces musiques, c'est-à-dire que ce grand melting pot, comme Chicago en a offert pendant tout le siècle, eh bien, il s'est retrouvé d'un seul coup inventé par le garçon dont vous parliez tout à l'heure, qui s'appelle Knuckles, et qui, dans un club qui s'appelle Warehouse, a inventé cette musique en mélangeant comme ça les différentes musiques, les différentes cultures. Et c'est rare d'ailleurs qu'une musique d'origine européenne, comme la disco et comme la disco italienne et la variété italienne ou l'électronique allemande, puissent influencer comme ça la musique américaine. C'est un exemple dans l'histoire de la musique qui est assez rare. Et donc, cette espèce de mélange ne pouvait être fait qu'à Chicago ou qu'à Détroit. Et donc, c'est ce qui a créé la naissance de cette musique, la house music, qui vraiment est née dans ce club, la warehouse, qui naturellement est fermée depuis longtemps, mais le bâtiment existe toujours.
Toujours.
Il aussi a été classé au monument historique. Et donc, on peut le voir. Il est dans mon livre, d'ailleurs, en photo. Il est sur 3 étages. Et c'est là où, vraiment, Frankie Knuckles a vraiment inventé la house music.
Alors, Phil Brossa, c'est difficile, quand on parle donc des musiques de Chicago, d'une vie aussi importante que Chicago pour les États-Unis et même le monde, avec cette histoire donc, que vous évoquez dans votre livre, de ne pas évoquer les questions raciales, la question noire aux États-Unis, pour faire simple. Vous rappelez dans page 76, en été 1919, la mort le 27 juillet d'un adolescent noir de 17 ans, Jeanne Williams, qui est mort noyé parce qu'il a été, il a dû se réfugier dans l'eau parce qu'il était attaqué et il s'est noyé. Également, page 88, le meurtre d'Emmett Till, un garçon noir de 14 ans. Alors, certains historiens, comme Andrew Diamond, voient en Chicago la capitale de l'Amérique noire au milieu du XXe siècle, jouant un rôle déterminant dans la lutte pour les droits civiques. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah ben, je suis à 150% d'accord. Chicago est une ville excessivement politique. les plus grandes manifestations contre la guerre du Vietnam, bien sûr pour les droits civiques, se sont tenues à Chicago. Il y en a eu effectivement à Washington d'importantes organisées par Martin Luther King, mais les plus importantes manifestations, et quand les Américains ont envie de manifester, c'est souvent à Chicago qu'ils le font. En 1968, après la mort de Robert Kennedy, qui était pressenti pour être le futur espoir des Noirs américains à la présidence, il a été abattu, on le sait, il a été assassiné dans un meeting à Los Angeles. Eh bien, il y a eu une émeute énorme qui, pour répondre à votre question, a ravagé les quartiers noirs du sud et de l'ouest de la ville de Chicago, notamment les pauvres clubs. Il y en a beaucoup qui ont brûlé à ce moment-là. Vous posiez la question, est-ce qu'il en reste encore? Il y en a beaucoup qui ont brûlé à l'occasion de ces grosses manifestations. Et pour revenir à Emmett Till, dont vous parliez, et Eugène Williams, c'est des drames. D'ailleurs, j'ai dédié mon livre à Eugène Williams, à Emmett Till, parce que c'est des drames absolument effroyables. Alors, l'exemple d'Eugène Williams, c'est beaucoup plus tôt dans le siècle, dans le 20e siècle. À l'époque, dans le lac Michigan, qui borde Chicago, les Noirs ne pouvaient pas se baigner au même endroit que les Blancs. Donc, il y avait une partie du lac et des plages qui étaient réservées aux Noirs et une partie des plages qui étaient réservées aux Blancs. Malheureusement, Eugène Williams, il s'amusait avec des copains, ils ont déconné, il s'est retrouvé dans la partie consacrée aux Blancs. Et là, il y a eu des gens qui se sont précipités sur lui et qui l'ont carrément noyé. S'en est suivi des émeutes, naturellement, des grosses émeutes, mais encore une fois, le truc a été éteint, a été oublié dans l'histoire. Eugène Williams a véritablement trouvé une tombe digne de ce nom que 60 ans après sa mort. Quant à Emmett Till, c'est un jeune garçon né à Chicago et élevé à Chicago, il part en vacances dans l'état du sud, et là, il a le malheur de siffler une jeune blanche. Et le mari de cette jeune blanche le kidnappe et va le passer à tabac et va le tuer de façon abominable et le jeter dans la rivière. Quand on a découvert, on s'est rendu compte à quel point son visage avait été massacré par ces blancs. Les blancs ont été retrouvés, il y a eu un procès et naturellement les blancs ont été acquittés. Mais la maman de Latine a tenu absolument à ce que le cercueil de son fils revienne à Chicago et soit exposé dans une église pour que les gens puissent se rendre compte à quel point son fils avait été martyrisé et voilà. Donc l'église dans laquelle Emmett Till a été exposé existe toujours. J'y suis allé. Elle est fermée naturellement, mais elle existe toujours et je pense qu'on la garde intacte parce qu'elle pourrait, elle menace de s'écrouler. Hein. On la garde comme ça parce que on veut garder quand même quelque part le souvenir de ce pauvre Emmett Till. Donc il y a eu à New York des manifestations énormes qui ont saccagé une partie de la ville. Il y a eu des manifestations contre la guerre du Vietnam, à l'occasion, encore une fois, en 1968, de la convention démocrate. La plupart des conventions se tiennent, pour l'élection présidentielle, se tiennent très souvent à Chicago. Celle de 68 a été particulièrement sanglante, dans le sens où les jeunes sont mis d'un peu partout pour manifester contre la guerre du Vietnam, mais aussi contre l'élection américaine, puisque maintenant il n'y avait plus Robert Kennedy et qu'il n'y avait plus d'espoir pour eux. Et d'ailleurs, la prochaine convention, la dernière convention démocrate qui a fait en sorte que peut-être la prochaine présidente et la première présidente d'Amérique a été inféodée, et bien elle s'est tenue là au mois d'août, elle s'est tenue à Chicago.
C'est ça. Philippe Bronsa, diriez-vous qu'il y a une manière spécifiquement américaine de penser la ville ? Non ?
Une façon typiquement américaine de penser. Je pense que chaque ville a une façon typiquement de penser. On sait à quel point la côte est et la côte ouest, les États du Sud et les États du Nord sont complètement différents. On le voit aujourd'hui avec les votes pour l'élection présidentielle. Donc Chicago est une ville... encore une fois, on l'a vu, c'est une ville de tous les espoirs pour les gens qui sont allés à Chicago. C'est aussi une ville effectivement de melting pot où effectivement il y a eu des émeutes racistes et des conflits racistes excessivement importants. Mais c'est aussi une ville où les différentes populations vivent plutôt en bonne intelligence, à une époque où tout ça c'est peut-être aujourd'hui remis en cause par rapport à la lutte contre les immigrants, etc. Et donc c'est une ville un peu à part. C'est aussi la ville, vous vous rappelez, c'est la ville des gangsters.
C'est ça,
la ville
oui. Al Capone.
Al Capone, Al Capone. Cette fameuse nuit de la Saint-Valentin, où on a vu Al Capone qui a massacré tous ses ennemis potentiels. Donc c'est une ville à part, mais naturellement New York est une ville à part, naturellement Los Angeles est une ville à part, etc.
Alors Philippe Boissard, quand remonte votre dernier séjour à Chicago?
Au mois d'avril.
Au mois d'avril. Et vous avez un attachement particulier avec cette ville? Vous vous y sentez bien?
Je m'y sens très bien. D'abord, c'est une ville, si vous la connaissez. C'est une ville
non, je ne connais pas Chicago, malheureusement.
C'est une des plus belles villes. Pour moi, c'est une des plus belles villes des États-Unis. L'architecture est sans doute la plus magnifique des États-Unis. Et puis, la chance qu'on a, c'est qu'il y a ce lac, et puis qu'à un moment donné, il y a cette rivière qui rentre dans la ville, dans le centre de la ville, et cette rivière qui n'est pas très large, elle est bordée des plus magnifiques immeubles gratte-ciel que les plus magnifiques architectes américains ont créés au fil du XXe siècle. Vous savez qu'il y a eu un grand incendie à Chicago à la fin du XIXe siècle, et du coup, il a fallu tout refaire, il a fallu tout rebâtir, et notamment dans le centre-ville. Et donc aujourd'hui, ce sont des bâtiments qui sont sans doute les plus beaux, même plus beaux que ceux qui sont à New York. Donc c'est une ville excessivement agréable, qui a des très grands parcs. Et je pense que, je n'ai pas vécu, mais j'y suis allé en tourisme, mais je pense que c'est une ville très agréable à vivre, sauf l'hiver où il doit faire très froid quand même.
Et pour finir, Philippe Boissard, d'où vient ce surnom de Windy City, ville du vent? Pourquoi il y a plus de vent à Chicago qu'ailleurs?
Oui, il y a beaucoup de vent, et surtout le vent il s'engouffre entre les différents immeubles, entre différentes rues. Les rues sont un petit peu sont moins larges qu'à New York, et le vent s'engouffre. Alors le vent il vient sans doute du lac, il vient des lacs, parce qu'il y en a plusieurs dans le coin. Il vient des lacs, il s'engouffre dans la ville, et l'hiver il est absolument glacial. Moi j'y suis allé aussi au mois de février une année. Écoutez, je peux vous dire qu'il fait très 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 froid. Donc Windy City, ça vient sans doute de ça, même s'il y a différentes thèses qui veulent défendre pourquoi on la surnomme Windy City.
Et vous avez encore le sentiment, il me revient encore une dernière question, que Chicago, aujourd'hui encore, reste une ville d'émancipation? Si vous avez effectivement souligné le fait qu'il y a beaucoup de manifestations, de soulèvements qui ont lieu en cette ville, est-ce que vous pensez que là encore aujourd'hui c'est encore valable, encore pertinent?
Oui, enfin je dirais que oui. N'oublions pas que Barack Obama est originaire de Chicago. Il est né à Chicago, il a fait toutes ses études à Chicago. En tout cas, il a grandi à Chicago et il a été diplômé à Chicago. Il a fait sa carrière et son premier discours, il l'a fait dans Grand Park, et le Grand Park de Chicago. Donc, j'ai envie de dire oui. Oui, même si, encore une fois, chaque ville a ses caractéristiques, mais ça reste une ville très ouverte. Et c'est pour ça qu'il y a autant de vent qui rentre dans la ville.
Et on peut tout à fait voir aussi le lien entre le vent et la musique, si on veut faire un peu de poésie.
Exactement. Et je dis dans mon livre que la musique a traversé cette ville, toutes les musiques ont traversé cette ville, comme le vent traverse la ville, parce que toutes les musiques, du jazz à la house, en passant par le blues, par le rock, n'oublions pas qu'il y a eu des groupes de rock aussi à Chicago. Il y a eu le groupe Chicago est originaire naturellement de Chicago, mais on peut dire aussi qu'il y a les Smashing Pumpkins, il y a Wilco, qui sont originaires de Chicago. Donc toutes les musiques ont traversé cette ville, un peu comme le vent la traverse.
Je renvoie donc nos auditeurs à votre livre, Philippe Boissard, Streets of Chicago, l'histoire des musiques de la Windy City. C'est publié aux éditions Le Mot et le Reste. Merci infiniment d'être
Merci
venu
à
parler
Merci
de votre livre à Talega FM. Bonne soirée.
Au revoir. Au revoir.
I never. never knew a la, 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 a la like this. Gotta be something for me to write this. Queen, I ain't seen you in a minute. Wrote this letter and finally decide to send it. Signed, sealed, delivered for us to grow together. Love has no limit, let's spin a slow forever. I know your heart is weathered by what studs did to you. I ain't gon' sod 'em cause I probably did it too. Because of you feelings I handle with care. Some niggas recognize your life but they can't handle the glare. You know I ain't the type to walk around with matching shirts. A relationship is effort, I will match your work. I wanna be the one to make you happiest and hurt you the most. They say the end is near, it's important that we close to the most high. Regardless of what happened, on him let's rely. Second. It's important we communicate and tune the fate of this union to the right pitch. I never call you my bitch or even my boo. There's so much in the name and so much more in you. Few understand a union of woman and man. It's sex and a tingle is where they assuming it land. But that's fly by night for you in the sky right. During these cold shy nights, moon, you my light. If heaven had a height, you would be that tall. Ghetto to coffee shop, you, I see that all. Let's stick to understanding and we won't fall. For better or worse times, I hope to me you call. So I pray every day more than anything. Friends will stay as we begin to lay this foundation for a family. Love ain't simple, why can't it be anything worth having you work at annually? Granted, we've known each other for some time. It don't take a whole day to recognize sunshine. Second. It's kind of fresh, you listen to more than hip-hop. And I can catch you in the mix from beauty to thrift shop. Plus you shit-pop when it's time to. Thinking you fresh, suggesting beats I should rhyme to. At times when I'm lost, I try to find you. You know to give me space when it's time to. My heart's dictionary defines you. It's love and happiness. Truthfully, it's hard trying to practice happiness. The time we committed love, it was real good. Had to be for me to arrive, and it still feel good. I know the sex ain't gonna keep you, but as my equal, it's how I must treat you. As my reflection, the light, I'ma lead you. And whatever's right, I'ma feed you. Yo, I tell you the rest when I see you. Peace.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Culture, société, création, en version originale, Patrick, Léon Émile.
The Light, c'est le titre de ce morceau de Common qu'on écoutait à l'instant. Common qui fait partie aussi des artistes, des musiciens de Chicago, comme l'évoquait tout à l'heure Philippe Brossat qui nous parlait de son livre Street of Chicago, publié aux éditions Le Mot et le Reste. Dernière plage musicale avec Curtis Mayfield, avant de se séparer, on écoute Diamond in the Back. Curtis Mayfield sur Aligre FM.
In the can still stand tall. Just be thankful for what you got. Though you may not drive a great big Cadillac, diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lean, gangster white wall, TV antennas in the back. You may not have a car at all, but remember, brothers and sisters, you can still stand tall. Just be thankful for what you got. Diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lean. Woo-hoo. Diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lean.
Curtis Mayfield sur Aligre FM 93.1, vous êtes bien dans version originale. Le titre Diamond in the Back, pardon, musicien de Chicago, comme nous le disions au téléphone tout à l'heure avec Philippe Brossa, avec qui nous avons parlé de son livre Streets of Chicago, les rues de Chicago, l'histoire des musiques dans la Windy City, publié aux éditions Le Mot et le Reste. Amis auditeurs et auditrices, je vous remercie de nous avoir écoutés. À la réalisation technique ce soir, Armand Guéry, merci beaucoup. Restez à l'écoute d'Aligre FM. Dans un instant, vous retrouverez Dancehall Reggae Vibes. Et à 22h30, Audiométrique. Je vous retrouve samedi prochain à 19h sur Aligre FM 93.1. D'ici là, passez un bon week-end, une bonne semaine. À samedi prochain. À bientôt.
Version originale. Patrick, Léon Émile.
Yeah. 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 Snap. Drugs got me waking up in cold sweats. Sometimes I'm slightly on my rocker, but I'm on dick. Got you and the baby on my bitch's student loan shit. She hit my line to get that girl, I call it phone sex. Robbing like my problems ain't gon' catch up to me later. Bitch, I'm mobbing like OG Bobby Johnson, split your potato. At the table, cookie shaving and touching basements and bases. But they try to make a play for the yay as soon as they taste it. The evasive black American gangster send us the corner hugger. Seeing this nigga shining and knowing me like a motherfucker. This buster on me, now he act like he don't know me. 44, my closest homie, kill cocker. Roaches like Tony got Montana motors. Newport 100 dipping fluid, yo, I had to smoke it. Pupils dilated like silver dollars, now we know it. Call it devilish how I do biz. Fuck these niggas talking, I leave their thoughts on my shoestrings. What? Straight to FNH is what I'm holding. The buster that we know got 50 bowls, bust it open. We came banana up, divided up, now what's the quotient? I split with four niggas since I'm a go-getter. I think these suckers pussy, I'ma murk the whole litter. Told my girl to leave as soon as I hung up the phone with her. Man, I heard you robbed the robbers, look Freddy, a cold nigga. Got an ice maker for a heart, made nigga from the start. Life is like a movie, all I did was play my fucking part. Jeffing up the crack, the heroin, the weed, out the car. I call it Fast Freddy's, I should own a fucking restaurant. Cause back when I was 12, threw some bells on the scale and I got a pager. We broke them down and started selling nickels to the neighbors. Eventually the penitentiary go see me later. Kiss my mama, told her if I died and it was part of nature. What?
The flesh, the Lambo pallet outside, it's a stretch. My bitch half Mexican, Afghan, I'm blessed. From living tough times with rough levers, a gorgeous watch. A team on a dreadful level, yo. Yeah, we still getting money right. Long as the sun come out, I hold these money tight. Getting fresh, just cooling my bitch on my dick. But boo, yo, you live with your moms, just get a grip. Clip in my pocket, a rocket. I think of the dips, I need jewels and gems with rough flicks. Trips to Africa, shorty tear sex up. I'm out in Bombay, rebels here acting up. We real OG, 7,500 of us. Up in the Sprinter bus, fussing, we need more heat.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.